Une fois n'est pas coutume, j'imagine que les personnes assises au premier rang regardent le dernier rang avec gourmandise. 2000 ans plus tard, cette page d'évangile nous rejoint très concrètement. Comment notre communauté ecclésiale, en célébrant l'Eucharistie, met-elle en pratique les orientations données par le Christ? Comment annonce-t-elle prophétiquement ce que sera le festin des noces éternelles? Comment chacun et chacune d'entre nous reçoit cette parole du Christ pour cheminer dans la perspective du festin du royaume à la manière dont Dieu veut qu'il s'accomplisse? Lorsque nous franchissons le seuil de l'Église pour participer à l'Eucharistie, nous ne transposons pas les rapports qui structurent la vie de la société de manière ordinaire. Et le jugement que le Christ porte sur le repas chez le pharisien vise précisément à appeler à un autre type de relation. Dans la vie sociale, nous pouvons être un grand responsable industriel ou un simple exécutant, quelqu'un de très riche ou quelqu'un de très pauvre. Mais quand nous participons à l'Eucharistie, ces logiques sociales, hiérarchiques ou économiques disparaissent. L'Assemblée dominicale n'est pas une micro-société qui reproduirait les schémas du monde. Nous sommes ici dans une société nouvelle qui préfigure l'Assemblée finale des hommes en Dieu et dans laquelle progressent de nouvelles manières d'être les uns avec les autres et des relations nouvelles entre les hommes et les femmes, les jeunes et les anciens, les puissants et les faibles. Un second message nous est donné par Jésus. Quand tu invites quelqu'un chez toi, ne pense pas à ce qu'il va te rendre. Invite plutôt ceux qui ne pourront rien te rendre. Il n'est donc plus nécessaire d'inviter vos amis. Ces deux orientations données par le Christ nous aident à entrer dans la perspective du festin de son royaume. Il donne la première place à ceux qui sont les moins considérés et il manifeste que son invitation n'est pas une rétribution de ce que nous aurions fait, mais un don gratuit. Dieu nous aime, non pas parce que nous l'aimons, Dieu nous aime gratuitement. Et c'est parce qu'il nous aime gratuitement que nous sommes invités, entraînés et soutenus pour l'aimer à notre tour. Dieu ne nous aime pas parce que nous faisons de belles choses, il nous aime parce qu'il est notre Père. Cette relation d'amour gratuit avec le Père trouve son expression la plus forte lorsque Dieu choisit ceux que notre jugement social en particulier, considère comme disqualifiés par rapport à son invitation. Ceux dont nous pensons qu'ils n'y ont pas droit, qu'ils n'ont pas accès, qu'ils ne sont pas dignes, c'est vers cela que Dieu veut d'abord porter son appel. Non pas pour affirmer qu'ils auraient des droits, comme si quiconque en ce monde pouvait prétendre avoir des droits devant Dieu, mais parce que la surabondance de son amour va chercher ceux qui sont sans droit pour en faire ses enfants bien-aimés. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Tu trouveras grâce devant le Seigneur, avons-nous entendu dans la première lecture. Si nous regardons la vie de notre société, nous voyons combien nous sommes motivés pour réclamer les droits qui nous sont dus. Et s'il est vrai que dans la société, le droit est une façon de reconnaître une justice entre les hommes, la relation que nous entretenons avec Dieu et la relation qu'il veut entretenir avec nous ne se base pas sur des droits que nous pourrions faire valoir devant lui, mais plutôt sur la gratuité absolue de son amour qui nous donne des droits que nous n'avons pas. En effet, quel droit avons-nous devant Dieu? Le droit de reconnaître que nous sommes pauvres, que nous sommes pécheurs et que nous sommes accueillis par pure grâce. Qui donc peut être sauvé? Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Ceux qui veulent se réclamer de leur mérite ou des caractéristiques de leur vie pour obtenir quelque chose de Dieu se trompent totalement. Dieu n'est pas à notre service, il nous appelle à son service. Dieu n'est pas là pour satisfaire nos attentes, combler nos désirs ou reconnaître nos droits. Il choisit celui qui n'a pas de droit, celui qui n'ose pas réclamer son droit, celui qui se considère comme le dernier, le plus pauvre, le moins méritant. Ainsi, chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie dominicale, nous ouvrons notre célébration par le rite pénitentiel qui nous permet de nous remettre devant cette réalité. Car nous ne venons pas à la messe pour faire une faveur à Dieu. Nous venons nous reconnaître pécheurs et implorer sa grâce, parce que nous savons qu'il vient vers celui qui est pécheur, qu'il répond à celui qui le supplie, qu'il reçoit celui qui se présente humblement. Amen.